Bienvenue dans Planète École sur Port d'Albret FM. Ici, les élèves de Messanges s'expriment, racontent des événements de l'école et partagent avec vous leur actualité. Attention les auditeurs, ouvrez grand vos oreilles, c'est à nous. Voici venu le temps de la page sportive.
Planète École.
Bonjour, on vous présente le hockey sur le gazon. Le hockey sur le gazon est l'un des plus anciens jeux de balle utilisant une crosse. Dans la vallée du Nil, en Égypte, les chercheurs ont trouvé une fresque tombale datant de 4000 ans avant Jésus-Christ représentant ce sport. D'autres preuves ont également été retrouvées au Moyen-Orient, en Chine ainsi qu'en Amérique latine.
Une forme du hockey a aussi été recensée en Amérique du Nord et en effet, les Indiens d'Amérique jouaient sur des terrains de plusieurs kilomètres avec deux équipes de plusieurs centaines de joueurs pendant une journée entière.
Mais l'histoire du hockey sur gazon débute en Angleterre en 1851. Le club anglais Blackheath voit le jour en 1875. Le club londonien Teddington est créé. Ce dernier va moderniser le jeu par de nouvelles règles. La crosse ne devra pas être levée au-dessus des épaules. Une zone de tir au goal sera mise en place ou encore les joueurs seront 11 par équipe sur le terrain.
Dans les années qui suivent cette modernisation, les Britanniques vont développer ce sport dans leurs colonies, l'Inde et le Pakistan. On retrouve d'ailleurs actuellement des traces de ce développement puisque des Hindous et des Pakistanais figurent parmi les plus grands joueurs.
À la fin du 19e siècle, le hockey sur gazon est donc bien développé et quelques clubs ont déjà été créés dans plusieurs pays. En 1899, le premier championnat de France de hockey sur gazon est organisé.
Plus tard, en 1908, le hockey sur gazon sera présenté aux Jeux Olympiques de Londres. Ce seront les Anglais qui termineront premiers sur le podium devant l'Irlande et l'Écosse.
Le hockey en salle s'est également développé dans les années 50 pour permettre aux pays européens de pouvoir jouer en hiver. Et la pratique du hockey se développera sur gazon synthétique afin de gagner en vitesse.
Le hockey féminin ne sera officialisé que lors des Jeux olympiques de Moscou en 1980. Et depuis 2012, le para-hockey comprend deux pratiques, le hockey adapté, le hockey fauteuil. Les règles sont semblables au hockey pour valider l'arbitrage et lui adapté.
Port-d'Albret-FM.fr. Planète École.
Bonjour, nous sommes la classe de CE1-CE2 de l'école de Messanges.
Nous allons vous présenter le hockey sur gazon. Le hockey sur gazon est un sport collectif de balle qui oppose deux équipes de 11 joueurs équipés de crosses spéciales courbées appelées sticks.
Le but du jeu est de marquer le plus de points possible en envoyant une petite balle dans le but du camp adverse à l'aide d'une crosse.
Le hockey est un sport de plein air. Il se pratique sur toute surface plane.
L'équipe gagnante est celle qui a marqué le plus de buts à la fin du temps réglementaire.
Un match à 4 périodes. La première période dure 15 minutes, puis il y a une pause de 2 minutes. La deuxième période dure aussi 15 minutes suivies d'une pause de 15 minutes.
La troisième période réglementaire pour 15 minutes suivie d'une pause de 2 minutes. La quatrième période dure 15 minutes. Le match dure au total 60 minutes.
Le terrain de hockey sur gazon a les mêmes dimensions qu'un terrain de football. Le terrain de hockey sur gazon est constitué ainsi.
Sa longueur est de 90 mètres. Sa largeur est de 55 mètres. Il y a trois lignes, dont deux lignes de 22 et une ligne centrale.
Il y a deux buts d'environ 4 mètres de large et 2 mètres de haut. Les buts ont un filet et une planche de but de 46 cm de haut pour arrêter les balles. Devant chaque but, on trouve un arcle de cercle de 15 mètres de rayon appelé cercle d'envoi.
La tenue. Les joueurs utilisent un maillot, un short, des chaussettes, des protège-tibias, des chaussures spécifiques avec des crampons moulés sont utilisés en fonction de la nature du terrain. Les joueurs ont besoin d'un protège-dents.
Le gardien de but porte un maillot de couleur différente de celui des 10 autres joueurs de son équipe ainsi que celui de l'équipe adverse.
Le gardien de but utilise un équipement de protection adapté à son poste. Casque, plastron, coquille, guêtre, sabots, coudière, gants et short. Renforcer sa tenue ne doit pas présenter aucun danger.
Nous allons maintenant vous présenter la crosse et la balle. On appelle la crosse stick. La crosse composée d'une seule pièce est droite dans sa partie haute, manche, est équipée d'un grip similaire à celle d'une raquette de tennis. La partie basse, tête ou bec, est recourbée et possède une face bombée vers l'extérieur côté rond et une face plane vers l'intérieur. Seul l'usage du côté plat est autorisé pour jouer la balle. Traditionnellement en bois, les crosses sont maintenant en matériaux composites, fibres de verre, Kevlar, qui permettent de meilleurs résultats.
La crosse doit passer dans un anneau d'un diamètre de 5 cm environ. Sa longueur ne peut dépasser 1 mètre et sa courbure fait 2,5 cm max.
Une balle de hockey pèse environ 160 grammes. Autrefois, les crosses étaient en bois et les terrains en vrai gazon. La balle était en cuir.
Aujourd'hui, la crosse est en matériaux composites et le terrain en gazon synthétique.
Voici les règles à respecter.
Le gardien peut jouer la balle avec sa crosse ou chaque partie du corps, debout ou au sol.
Le gardien ne joue qu'avec sa crosse, s'il est en dehors de son cercle.
Les joueurs doivent pousser la balle avec le côté plat de la crosse.
Il y a but si le joueur touche la balle dans le cercle d'envoi adverse.
Les hockeyeurs doivent pousser la balle pour se déplacer.
Les joueurs doivent frapper la balle pour faire des passes ou pour tirer au but.
La crosse se tient à deux mains.
La crosse est tenue en dessous des genoux.
L'arbitre a à sa disposition le carton vert, 2 minutes d'exclusion. Le carton jaune, 5 minutes ou 10 minutes d'exclusion. Si l'arbitre est d'accord. Et le carton rouge, exclusion définitive, crosse en l'air, coup anti-jeu. Quelques mouvements sont à connaître. Par exemple, le petit corner.
En cas de faute involontaire dans le cercle d'envoi, 4 joueurs se placent dans le but avec le gardien. L'équipe adverse se place autour du cercle d'envoi et tente de tirer au but et la hauteur de la planche.
Autre exemple, l'autopasse. Si l'adversaire fait une faute et qu'un joueur récupère la balle,
il peut poser la balle sur la ligne de touche et démarrer seul l'occasion de jeu.
Autre mouvement, le shoot au but. Lorsqu'une balle est frappée dans le but, le shoot doit viser au maximum la hauteur de la planche pour éviter le risque de blessure.
Le hockey sur gazon, les fautes.
Tout jeu dangereux est sanctionné par les arbitres. Des fautes fréquentes.
Si un hockeyeur touche la balle du pied ou de la main, c'est une faute.
C'est une faute d'envoyer une balle dangereuse pour les autres joueurs.
Il est interdit de jouer avec le côté arrondi de la crosse.
Il est interdit de pousser l'adversaire.
Il est interdit de faire des gestes dangereux.
Il est interdit de faire un tacle avec la crosse.
Une petite pause musicale, ça vous dit ?
Je suis née dans un pays où je mange quand je veux, où je grandis heureux. Mais toi, tu cours après la vie, pour de l'eau, pour du riz. Malgré tout, tu souris, tu célèbres à l'école.
C'est le droit des enfants,
obtenir la parole.
C'est le droit des enfants,
manger tous à sa faim.
C'est le droit des enfants,
ne plus tendre la main.
Thank you.
D'un côté le bonheur, de l'autre la misère. Tendons nos poignets et nos mains pour aider nos cousins à vivre mieux demain, grandir sans avoir peur.
C'est le droit des enfants.
N'écoutez que son cœur.
C'est le droit des enfants.
Inventer de grands rêves.
C'est le droit des enfants.
De la guerre faire notre œuvre.
C'est le droit des enfants.
Vivre entouré d'amour.
C'est le droit des enfants.
Chantons la chanson pour.
Pour le droit des enfants.
Chacun de vous pourra.
C'est le droit des enfants.
Dire tout ce qu'il voudra.
C'est le droit des enfants.
Pour que ce petit air.
C'est le droit des enfants.
Fasse le tour. Après la vie, pour de l'eau, pour du riz, malgré tout tes souris, tous aller à l'école.
C'est le droit des enfants.
Obtenir la parole.
C'est le droit des enfants.
Manger tous à sa faim.
C'est le droit des enfants.
Ne plus tendre la main.
C'est le droit des enfants.
Grandir sans avoir peur.
C'est le droit des enfants.
N'écouter que son cœur.
On continue avec le temps des livres.
Planète École.
Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 11 ans. Je vais vous présenter un livre qui s'intitule « L'homme de l'île magique ». Il peut être lu à partir de 8 ans. L'auteur, c'est Valérie Bernat et l'illustratrice Virginie Megescas. Il a été publié en mars 2016. Les personnages sont « L'homme de l'île magique », les villageois, le roi, la princesse et Grisé, un villageois. Ce livre raconte l'histoire d'un pays gris, dans lequel les gens sont gris, le soleil gris, où tout est gris. Un jour, la princesse du pays tomba malade. Elle devenait blanche. Le roi demanda une personne qui pouvait guérir la princesse. Les villageois, grâce à Grisé, un personnage de l'histoire, qui avait des informations, partir à la recherche de cet homme. J'ai aimé mon livre parce que c'est un livre d'aventure qui se termine bien. Je vais vous lire la première page. Dans ce pays, d'aussi loin que l'on pouvait voir, ce n'était que du gris, un royaume gris. Le soleil y brillait tous les jours, mais le froid n'y venait jamais. Même la pluie évitait cette contrée. Non, c'était seulement que tout était gris.
Bonjour, je m'appelle Juliette et j'ai 11 ans. Je vais vous présenter un livre qui s'intitule « Le secret de Danger Point ». L'auteur est Kim Dwidnell. La première date d'édition est en mars 2018. Et ce livre fait partie de la collection Surfside Girl. Ce livre peut être lu à partir de 8 ans et il comporte 238 pages. Les personnages principaux sont Jade et Miranda, deux meilleurs amis, le père, la mère et le petit frère de Samantha, Monsieur Yu et Robert qui sont des fantômes. Ce livre raconte l'histoire de deux filles, Samantha et Jade. Elles étaient en train de surfer. À un moment, Samantha, qui voit une lueur dans l'eau, plonge pour aller voir cette lumière. Et là, l'aventure commence. Elles atterrissent dans une grotte. Je vais vous lire un extrait. C'est au moment où Samantha rencontre la lueur sous l'eau. Tiens, c'est quoi ça? Quoi ça? Ce truc qui brille. Je ne sais pas. Oh, et si c'était de l'or, je vais vérifier. La lecture du livre a été facile. J'ai adoré ce livre parce qu'il y a eu beaucoup d'aventures. Ce livre est une bande dessinée.
Bonjour, je m'appelle Noé, j'ai 11 ans. Je vais vous présenter un livre intitulé Mathilda. Ce livre est illustré par Quentin Blake et est écrit par Roald Dahl. Il peut être lu à partir de 9 ans. Ce roman a été publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Folio Junior. Il a été édité en 1988. Il compte 255 pages. La lecture est facile. Les personnages principaux sont Mathilda, l'héroïne, Mademoiselle Legourdin, la directrice de l'école que fréquente Mathilda, ses parents, son frère, ses amis, Mademoiselle Candy, la nièce de la directrice. Ce roman raconte la vie de Mathilda, une fille très douée et dotée de pouvoirs, qui rentre dans une école dont la directrice est très sévère avec les élèves. J'ai bien aimé mon livre, car il y a de l'aventure, mais aussi des moments drôles. Je recommande ce livre.
Bonjour, je m'appelle Elias, j'ai 10 ans. Je vais vous présenter une bande dessinée qui s'intitule Robinson Crusoe. Elle fait partie d'une collection éditée par les éditions Glénat en collaboration avec le journal Le Monde et qui s'appelle le grand classique de la littérature en bande dessinée. Cette bande dessinée est une adaptation du roman Robinson Crusoe de Daniel Defoe. C'est Christophe Lemoine qui a fait l'adaptation. Jean-Christophe Vergne qui a fait les illustrations. Il y a 46 pages dans cette bande dessinée. La lecture est parfois difficile et certains passages peuvent heurter la sensibilité de jeunes lecteurs. Pour ma part, j'ai adoré cette bande dessinée. Je vais vous parler des personnages principaux. Il y a Robinson Crusoe qui était planteur au Brésil. Le deuxième personnage est un chien que Robinson appelle compagnon. Le troisième personnage est Vendredi, un habitant de l'île sur laquelle arrive Robinson. Ce livre raconte comment Robinson sauve Vendredi des griffes des cannibales. Je vais vous lire un extrait. C'est au moment où Robinson sauve Vendredi et perd son chien. Un terrible chagrin me frappa entre-temps. Celui qui fut mon très fidèle compagnon pendant 16 ans mourut de pure vieillesse. Ce fut durant ma 25e année de captivité qu'un matin de très bonne heure, par le ciel, pas moins d'une trentaine de sauvages avaient débarqué sur le côté de l'île que j'habitais. Approchons sans nous faire voir. Deux prisonniers, l'un d'eux est déjà assommé. Les cannibales commencèrent à dépecer leurs victimes sous les regards terrifiés du second captif. Les brutes sanguinaires. Oh, leur prisonnier s'échappe. Il vient par ici. Deux seulement le poursuivent. Que faire? Sauver le malheureux et me découvrir? Ne pas intervenir?
C'est le moment de la pause musicale avec la chorale de l'école.
Pour que tu aies
sur dalbrefm.fr.
Planète École.
Le 8 mars dernier, c'était la journée de la femme. Cette journée a été l'occasion pour les élèves de CM2 de s'interroger sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pourquoi d'ailleurs avoir besoin de célébrer une journée de la femme ? À travers la lecture d'un texte, nous allons nous interroger avec ces jeunes élèves sur cette problématique. Bravo grand-mère, bravo papy !
Jonathan adore que sa grand-mère lui parle de sa rencontre avec Hubert. « On était fous amoureux, dit sa grand-mère. Mais mes parents ne voulaient pas qu'on se marie. « Mais pourquoi ?» demande Jonathan. « Puisque vous vous aimiez si fort. Mes parents voulaient que je devienne la femme de Georges. Parce que Georges avait un travail important et qu'il gagnait bien sa vie. Il avait une grande maison et mes parents disaient qu'il y serait bien pour élever des enfants. « Bravo, grand-mère. Tu as bien fait de leur désobéir. Je trouve que papy Hubert... est un grand-père génial.
Jonathan adore aussi que son grand-père Hubert lui parle de sa rencontre avec Germaine. Oh là là, comme on s'aimait fort! Mais c'était dur! Mes parents ne voulaient pas entendre parler de Germaine. Mais pourquoi? Demande Jonathan. Mes parents disaient que Henriette était mieux pour moi, qu'elle savait très bien coudre, cuisiner, repasser, qu'elle savait bien s'occuper de la maison, qu'elle avait une meilleure santé que Germaine et que c'était important pour avoir des enfants. Bravo, papy, tu as bien fait de leur désobéir. Je trouve que grand-mère Germaine est géniale.
Bien, merci pour cette lecture. On va un petit peu recueillir vos impressions. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux histoires ?
Que si on aime quelqu'un fort et que il est pas aisé et tout ça, et ben c'est pas une raison pour ne pas être avec lui.
Alors moi, j'aurais dit que j'ai bien aimé l'histoire et si on aime quelqu'un fort, on a le droit de désobéir.
Et je trouve qu'il faut aimer la personne qu'elle est et pas forcément parce qu'elle sait bien faire des choses alors qu'elle est aisée.
Alors effectivement, il y a un choix de vie à faire. Choisir la bonne personne, aller contre l'avis de ses parents. Mais dans ce texte-là, on voit aussi l'image que se font les parents du bon époux ou de la bonne épouse. Alors, pour les parents, un homme bien pour leur fille, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il doit savoir faire ? Qu'est-ce qu'il doit avoir de particulier ?
Pour un homme, il faut qu'il soit riche, qu'il ait un bon métier.
Il faut qu'il apporte de la nourriture, de l'argent à sa famille.
C'est vrai, il faut qu'il soit riche et qu'il apporte de la nourriture parce que s'il est pauvre, il ne pourra pas ramener beaucoup de nourriture et ne pourra pas ramener beaucoup à boire. Donc s'il est riche et qu'il peut ramener beaucoup à manger et à boire, ça servira.
Donc ça, c'est l'image qui est donnée dans ce texte-là pour l'homme. Il faut qu'il ait une bonne situation pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Tu veux rajouter quelque chose ?
Oui. Sauf que si il a toutes ces qualités-là, mais qu'on ne l'aime pas particulièrement, eh ben c'est pas une raison pour qu'on soit avec lui.
Oui, c'est un petit peu un amour par défaut.
Oui.
Est-ce qu'on peut parler d'amour même ?
Oui, non. Ben non.
Ben non, hein. Et on va en venir un petit peu à l'image qui est donnée de la femme, là. Une bonne épouse, dans ce texte-là, c'est qui pour les parents ?
C'est une femme qui sait bien faire le ménage, faire à manger et qui est en bonne santé.
En bonne santé pour quoi faire ?
Pour faire des enfants.
En bonne santé pour faire des enfants.
Oui, donc en bonne santé, il faut qu'elle sache bien faire le ménage, qu'elle doit passer la serpillière, faire la cuisine et tout ça. Pour que son mari, il retrouve la maison comme il aime.
Comme il aime.
Alors la femme, c'est... Il faut qu'elle soit en bonne santé pour faire des enfants et qu'elle sache bien s'occuper du bébé. Il faut qu'elle soit utile comme l'homme.
Une image de l'homme et de la femme qui sont un petit peu particulières. Est-ce que vous pensez qu'il y a une égalité entre ces deux rôles d'homme et de femme dans cette histoire-là ?
Je pense pas parce que, il y a la femme, elle reste tout le temps à la maison, elle fait toutes les tâches ménagères qu'elle aime pas forcément faire, alors que l'homme, il aime son travail, il aime avoir de l'argent, voilà. Donc c'est pas très égal.
Et maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui a changé ? Donc on a vu que dans cette condition-là, effectivement, les rôles étaient bien distincts et que peut-être il n'y avait pas d'amour entre l'homme, mari et la femme. Et maintenant, est-ce que c'est des choses qui ont bougé ?
Oui, c'est des choses qui ont bougé. Par exemple, pas comme avant, la femme, elle peut faire toutes sortes de métiers Toutes les filles peuvent aller à l'école. Elles sont pas obligées de rester à la maison. Elles peuvent conduire. Elles sont pas obligées de rester à la maison pour faire toutes les tâches ménagères. L'homme, il peut très bien faire la cuisine et la vaisselle et tout ça.
C'est vrai que ça évolue, mais il y a toujours, enfin, il y a plus les femmes qui font le ménage et à manger, etc.
Oui, ça a évolué. Puisque les femmes, avant, ils n'avaient pas trop le droit d'aller au métier.
C'est vrai que ça a bougé, parce qu'avant, à chaque fois, elles devaient, pour que les femmes aient un travail, il faut toujours l'autorisation de l'homme. Et oui, ça a bougé, donc. Mais des fois, il y a des hommes qui disent « Non, toi, tu restes à la maison pour faire la cuisine. »
Alors là, vous avez raison. Au niveau du travail, ce sont des choses qui ont bougé. Il y a pas si longtemps que ça, hein. Les femmes étaient obligées de demander l'autorisation soit à leur père, soit à leur mari pour avoir un travail. Le droit de voter pour les femmes, il est tout à fait récent aussi. Le droit d'avoir un compte en banque, c'est quelque chose de relativement récent aussi. Les femmes étaient obligées de rendre des comptes à leur mari et ne pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient. Vous avez parlé de la conduite, c'est pareil. Le fait que les femmes conduisent, c'est quelque chose de récent. Et on voit dans notre société que les choses ont évolué parce qu'on a des papas, des hommes maintenant, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de la maison, qui font les courses, qui font à manger. On a aussi des femmes qui font des métiers d'hommes, enfin ce qu'on appelait autrefois des métiers d'hommes, par exemple.
Les femmes maintenant, ils peuvent faire par exemple boucheron. Elles peuvent faire pompière ou policière.
Un garçon, ça a quelle qualité?
Pour moi, si un garçon, ça a de la qualité un peu, parce que normalement, ça c'est se défendre. Et s'il a une copine, ben, normalement, il pourra un peu la défendre si elle se fait attaquer.
Par exemple, les garçons, on dit qu'ils sont tous plus forts que les filles. C'est un peu normal au début, parce que c'est naturel. Mais imaginons une fille très forte qui fait de la musculation et des haltères et tout ça, elle peut être bien plus forte qu'un garçon.
Tu as dit c'est naturel. Ça veut dire quoi, c'est naturel, qu'il soit plus fort le garçon?
Je crois que quand on est, naturellement, le garçon, je crois il a plus de muscles
que les filles.
Ouais, et donc la fille, il faut qu'elle apprenne à devenir forte.
Non, faut pas qu'elle apprenne, mais je crois que j'ai entendu ça, mais c'est pas sûr.
Une qualité qu'on peut attribuer à une fille. Une fille, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle sait faire de bien? Qu'est-ce qu'elle a comme qualité, comme compétence?
Une fille, comme qualité, ça peut être la musculation ou de la danse, de la gym.
Mais oui, elle sait bien danser en général.
Une qualité d'une fille, c'est qu'elle est plus souple qu'un garçon. Par exemple, elle sait faire le grand écart.
Donc le garçon, il est plus fort avec ses muscles et la fille, elle est plus souple.
On dit que souvent, les filles savent mieux écrire que les garçons.
Ah bon?
Il y en a qui disent ça.
Et alors, c'est vrai ou c'est pas vrai?
Ça dépend, parce que les garçons et les filles, ils savent écrire tous les deux pareil.
Aussi, il y en a des fois dans les infos, ils disent, peut-être pas dans les infos, mais il y en a qui disent que les hommes ont un plus gros cerveau que les femmes, et ça, c'est de l'inégalité. Sauf que des fois, les femmes ont un plus gros cerveau que les hommes.
Comment on sait qu'on a un plus gros cerveau? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un plus gros cerveau?
Être plus intelligent, avoir plus d'idées. Garder des choses dans sa tête.
Plus de QI.
Avoir plus de quotient intellectuel. Alors, à votre avis, c'est vrai ou c'est pas vrai?
C'est pas vrai. Même s'il a eu un grand garçon qui est mort maintenant, comment il s'appelle déjà? Frankenstein.
Oh non,
Albert Einstein.
Ça doit être Albert Einstein.
Ouais, voilà,
je pense que c'est Albert Einstein. Alors raconte-moi, qu'est-ce que tu sais d'Albert Einstein?
Il avait un très grand QI. Il était prof de mathématiques et il apprenait beaucoup aux enfants.
Et Marie Curie aussi, elle avait un grand QI et elle a fait plein de choses aussi. Tu vois, on peut en trouver aussi. Hein. Bien, on va en venir à autre chose. Est-ce que vous connaissez des inégalités chez les hommes et les femmes?
Beaucoup moins qu'avant, parce que quand même, avant, il y avait énormément d'inégalités entre les femmes et les hommes. Maintenant, enfin, il y en a quand même encore quelques-unes, mais ça a franchement évolué par rapport à avant.
Alors, les inégalités entre les hommes et les femmes, toi, tu dis que ça s'est atténué. Certainement, il y en a encore, notamment au niveau des salaires. À métier égal, les femmes ne touchent pas le même salaire. C'est pas très normal quand même. Hein. Et là, on parle de civilisation occidentale, donc on est en Europe. Est-ce que vous pensez que dans d'autres pays, ces inégalités qu'on a évoquées existent encore ?
Ben oui, dans certains pays, ben, ils y sont encore. Genre, par exemple, les femmes, ils n'ont pas le droit de faire un métier comme les hommes.
Dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a encore beaucoup d'inégalités entre les femmes et les hommes. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui n'ont toujours pas le droit de conduire. Et déjà, elles touchent encore moins le même salaire qu'ici, par rapport aux hommes. Et elles doivent...
Je crois bien, aux États-Unis aussi, il y a des femmes qui n'ont pas le droit d'avoir de boulot, qui doivent rester tout le temps à la maison.
Alors, je ne saurais pas dire dans quel pays sur la planète, mais oui, vous avez raison de dire que dans certaines régions de la planète, dans certains pays, les femmes n'ont toujours pas les droits que nous, on a ici, en Occident. J'aimerais savoir une dernière chose. On va en revenir à papy et mamie et à leur amour. Qu'est-ce qui est important quand on choisit son mari ou sa femme ?
Pour moi, ce qui est important... Quand on choisit son mari ou sa femme, c'est d'être heureux avec lui. Parce que si on n'est pas heureux, ben c'est même plus de l'amour.
Je suis d'accord avec ce qu'a dit Victor. Et aussi que si on n'est pas heureux ensemble, on pourra peut-être se quitter un jour.
Ben, ils ont raison. Mes deux coéquipiers, c'est que si on n'est pas heureux ensemble, ben, ça ne va pas marcher et on va se disputer et ça va vraiment pas marcher.
Et c'est pas parce que, par exemple, il est beau et riche que forcément il est gentil.
C'est vrai. Des fois, il peut être aigri.
Et donc, vous seriez fière de papy et mamie de cette histoire ? Vous diriez, vu aussi, bravo grand-père, bravo papy ?
Oui, je suis très fière parce que leurs parents voulaient qu'ils soient mariés d'un homme riche ou d'une femme qui s'était très bien coudre, cuisiner et faire le ménage. Mais vu que eux, ils savaient qu'ils allaient se marier quand même, ils ont dit non, on va quand même se marier. Ils n'ont pas dit oui, on va se marier quand même avec l'homme qui est riche ou la femme qui sait faire bien coudre.
Parce que ils se sentaient heureux ensemble.
Ils se sentaient heureux ensemble et c'est là l'essentiel. Alors nous aussi, on va dire bravo papy, bravo mamie.
Bravo papy, bravo mamie.
Planète École, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve au mois de mai pour la suite de nos émissions avec l'école de Messanges. À bientôt.
Bordalbrefm.fr